Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui finit par nous toucher tous, le vieillissement de la peau.
Oui, bonjour. C'est vrai que personne n'y échappe.
Et on sait que la production de collagène, elle diminue avec l'âge. On parle d'environ 1% par an, c'est ça?
C'est à peu près ça, oui. Et c'est un des facteurs clés dans l'apparition des rides, bien sûr. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre alimentation? Est-ce qu'on peut, disons, influencer ça positivement? C'est tout l'enjeu. Le collagène, c'est vraiment la structure, l'élasticité de la peau. Et c'est vrai qu'on voit une explosion des suppléments de collagène sur le marché.
Ah oui, partout. En poudre, en gélule.
Exactement. Avec des promesses, bon, parfois un peu optimistes, on va dire.
Et c'est justement ça qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. On va essayer de décortiquer un peu les infos qu'on a. L'idée, c'est de voir ce qui est fiable, ce qui l'est moins, sur ces suppléments.
Voilà.
Et surtout, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient, eux, vraiment aider notre corps à fabriquer son propre collagène?
C'est essentiel de regarder au-delà du marketing, en effet. Qu'est-ce que la science nous dit sur l'efficacité réelle? Et puis, il y a la question de la sécurité, qui n'est pas anodine, et bien sûr le potentiel des aliments eux-mêmes.
Bon, alors allons-y. Ces fameux suppléments, d'où ils viennent au juste?
Ouais.
Est-ce que sur les boîtes, c'est souvent pas très clair?
Effectivement, la transparence, c'est pas toujours ça. Quand on cherche un peu, les sources animales terrestres, ça peut être assez varié.
Varié comment?
Ben, on trouve des choses comme des queues de kangourou, de rat, des pattes de canard, tendons de cheval, os d'alligator.
Attendez, queue de kangourou et de rat, non mais sérieusement.
Oui.
On est loin de l'image un peu chic qu'ils essaient de vendre là. Ça fait un peu potion de sorcière, vos trucs, hein. C'est un peu ça parfois. Et pour les sources marines, c'est souvent les sous-produits. Peau, os, tête, écailles, nageoires, même les entrailles de poisson.
D'accord. Et les fabricants sont généralement assez discrets sur l'origine exacte, c'est ça?
Très souvent, oui. L'opacité est assez courante.
Bon, ça donne quand même à réfléchir sur ce qu'on met dans notre shaker le matin. Mais au-delà de l'aspect, disons, peu appétissant, est-ce qu'il y a des risques concrets?
Oui, et c'est là que ça devient un peu plus préoccupant. Déjà, il y a le risque de contamination, métaux lourds par exemple, ou d'autres adultérations, comme le mercure dans le poisson exactement.
Exactement. Pour le collagène de poisson, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils utilisent des poissons pêchés dans des zones saines, des espèces qui accumulent moins le mercure? On n'a pas toujours l'info.
Et pour le collagène qui vient des bovins, il y a cette histoire de maladie de la vache folle, l'ESB, ça concerne le collagène aussi?
C'est une préoccupation, oui. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, la FDA, l'agence du médicament, a spécifiquement exempté le collagène des interdictions qui touchent d'autres tissus à risque, comme le cerveau.
Ah bon? Ils ont fait une exception pour le collagène?
Oui, ça pose question sur le niveau de précaution appliqué, forcément.
Effectivement, ça fait un peu bizarre. Et il y a aussi les allergies. J'avais lu quelque chose là-dessus.
Oui, ce n'est pas anecdotique. On estime que 2 à 4% des gens pourraient être allergiques au collagène bovin.
Donc, entre les risques sanitaires potentiels, les questions éthiques ou religieuses et les allergies, ça fait pas mal de raisons de chercher des alternatives, non?
Tout à fait. Et ça pousse la recherche vers des solutions non animales.
Et ça donne quoi ces recherches?
Alors, il y a plusieurs pistes. On parle de bovins modifiés génétiquement pour ne pas avoir de prions, ou alors produire du collagène via des levures ou des plantes, elles aussi modifiées.
Ah oui, et ça marche?
En laboratoire, ça fonctionne, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment sur le marché à grande échelle. C'est surtout une question de coût, en fait. C'est dur de concurrencer le prix des déchets animaux, quoi. Les peaux, les pattes, ça ne coûte quasiment rien.
Difficile de battre le coup des pieds, comme on dit. Bon, et tous ces produits avec marqué collagène vegan dessus, alors c'est quoi le truc si le collagène est forcément animal?
Ben, le truc, c'est que ce n'est pas du collagène. Si on regarde bien, c'est ce qu'ils appellent des boosters ou des bâtisseurs de collagène.
C'est-à-dire?
C'est un mélange souvent de vitamines, d'acides aminés, des choses qui sont censées aider ton propre corps à fabriquer plus de collagène. Mais le produit lui-même n'en contient pas.
D'accord. Malin le marketing. Mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des études sérieuses qui montrent que ces boosters spécifiques font vraiment produire plus de collagène?
Eh bien, d'après ce qu'on a pu voir, il semble y avoir un manque assez flagrant d'études cliniques rigoureuses testant ces produits-là spécifiquement.
Donc, on n'a pas vraiment de preuves que ces boosters vegan fonctionnent mieux qu'autre chose.
Disons que les preuves scientifiques solides sur ces formulations précises ne semblent pas être publiées.
Ok. Donc les suppléments, qu'ils soient animaux ou vegan boosters, c'est pas très convaincant pour l'instant. Origine floue, risque possible, efficacité pas prouvée pour les alternatives.
C'est un peu le tableau, oui. La prudence est de mise.
Bon, alors si on laisse tomber ces poudres un peu suspectes, est-ce que notre assiette peut faire mieux? Et là, apparemment, oui. Et ça devient vraiment intéressant.
Tout à fait. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur l'impact direct de certains aliments.
J'ai vu un truc sur la pâte de tomate. Sérieusement, la pâte de tomate pour la peau, comment ça peut marcher?
Alors, c'est une étude assez bien faite sur 20 femmes. On leur a exposé une petite zone de peau sur les fesses, une zone pas trop bronzée d'habitude, à des UV.
Ok, pour simuler le soleil.
Voilà. Et la moitié des femmes a mangé l'équivalent de 3 cuillères à soupe de pâte de tomate par jour pendant 3 mois. Le résultat principal, c'est qu'elles avaient beaucoup moins d'activité d'une enzyme qui s'appelle MMP1.
MMP1. C'est quoi ce machin?
C'est une des enzymes clés qui dégrade notre collagène. Et le soleil l'active énormément. L'idée, c'est que le lycopène, l'antioxydant puissant de la tomate, surtout quand elle est cuite, aiderait à protéger le collagène qu'on a déjà.
Ah, d'accord. C'est un effet protecteur, donc. La tomate comme un bouclier anti-dégradation. Intéressant.
Exactement.
Et pour en fabriquer plus, du nouveau collagène, j'ai lu un truc sur les patates douces. Ça paraît presque trop beau pour être vrai.
Hol, biopsie sur les fesses, décidément.
Ils aiment bien les fesses dans ces études.
Apparemment. Ils ont regardé l'effet du bêta-carotène. Les résultats suggèrent qu'en mangeant chaque jour la quantité de bêta-carotène qu'on trouve dans, disons, une grosse tasse de patates douces cuites,
oui.
Eh bien, on pourrait multiplier par 4 la production de procollagène, c'est le précurseur direct du collagène, en 3 mois.
Multiplier par 4? Mais c'est énorme!
C'est ce que l'étude suggère, oui. C'est assez spectaculaire. Donc si je résume, la tomate protège, la patate douce construit. C'est un peu ça l'idée. Le bêta-carotène, c'est aussi un antioxydant que le corps transforme en vitamine A, qui est super importante pour la peau. La nuance, c'est ça. Tomate égale protection, patate douce égale production.
Super clair. Et si on continue dans le rayon légumes, les verts feuillus, épinards, tout ça?
Oui, il y a une étude coréenne intéressante sur des femmes plus âgées. Celles qui prenaient chaque jour l'équivalent en chlorophylle de quelques cuillères d'épinards cuits.
Oui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Toujours avec des biopsies. Une augmentation de la production de collagène, une meilleure élasticité de la peau et moins de rides visibles. Ça a duré 3 mois aussi. Ça a l'air pas mal du tout. Mais il y avait un mais, non? Une limite à cette étude.
Oui, et elle est importante. Il n'y avait pas de groupe contrôle. On a comparé les femmes avant et après. Mais pas avec un groupe qui n'aurait rien changé à son alimentation. Donc, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est seulement grâce aux épinards.
D'accord. Donc, une piste intéressante, mais à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'il y a des études plus solides, randomisées avec placebo?
J'ai vu quelque chose sur le choucal.
Tout à fait.
Là, on a un essai randomisé contre placebo qui a duré 10 mois. Ils ont utilisé un extrait de choucal ou chou frisé.
Et les résultats?
Le brood qui a pris l'extrait de kale a montré une amélioration significative d'une mesure de l'état du collagène dans la peau comparé au groupe placebo. C'était une mesure non invasive cette fois.
Ah, voilà qui est plus probant. Et qu'est-ce qu'on nous conclut, les chercheurs?
Leur conclusion était assez directe. Un mode de vie sain qui inclut une alimentation riche en caroténoïdes et le kale en est plein, c'est la meilleure stratégie pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Ça a même fait un peu de bruit dans le milieu dermato, j'ai cru voir.
Oui, il y a eu des commentaires dans des journaux de dermatologie du genre « Mangez vos légumes verts pour protéger votre peau du vieillissement solaire ».
Et on parlait aussi du sulforaphane dans le kale et les autres choux. Ça joue un rôle aussi. Le sulforaphane, c'est un composé soufré très intéressant. Des études en labo sur des cellules de peau suggèrent qu'il pourrait protéger contre les UV, mais aussi contre la pollution. C'est une piste très prometteuse, mais il faut encore confirmer ça chez l'humain avec des études cliniques. Donc si on prend un peu de hauteur, on voit bien ce fil rouge des caroténoïdes, patates douces, kale. Le message général, c'est vraiment qu'une alimentation riche en végétaux variés, c'est bon pour la peau. Le sulforaphane, c'est une piste à suivre, c'est sûr.
Ok. Alors, on a vu les légumes, les caroténoïdes. Quels autres nutriments sont importants? Le soja, par exemple, ça revient parfois, surtout pour les femmes après la ménopause.
Oui, il y a eu une étude au Brésil sur ça. Ils regardaient si le soja pouvait être une alternative à l'hormonothérapie pour la peau après la ménopause. 29 femmes ont mangé l'équivalent d'environ 4 portions de soja par jour pendant 6 mois.
4 portions? C'est pas mal quand même, hein? Et les résultats sur la peau ?
Les biopsies avant et après ont montré une amélioration nette de l'épaisseur de la peau chez la plupart des femmes. 25 sur 29, avec plus de collagène et plus de fibres élastiques.
C'est assez impressionnant. Mais même problème que pour les épinards, non ? Pas de groupe contrôle.
Exactement. C'est la grosse limite. Ça suggère un lien possible entre les phytoestrogènes du soja et la peau, surtout à cette période de la vie, mais il faudrait une étude contrôlée pour vraiment le confirmer.
D'accord. Prudence encore. Passons aux vitamines stars, la vitamine C. On sait que c'est bon pour nous, mais son lien avec le collagène, il est direct ?
Ah oui, là, c'est fondamental. La vitamine C, c'est un cofacteur essentiel. Sans elle, deux enzymes clés pour fabriquer le collagène ne peuvent pas bosser correctement. La production est freinée, voire bloquée.
C'est l'histoire du scorbut, ça, non ? Les marins qui perdaient leurs dents.
Exactement. Le scorbut, c'est la carence grave en vitamine C. Et un des symptômes majeurs, c'était la mauvaise cicatrisation des plaies. Pourquoi ? Parce que le collagène ne pouvait plus être synthétisé correctement.
Et on a même fait des expériences un peu limites pendant la guerre pour savoir combien il en fallait, c'est ça ?
Oui, des études sur des objecteurs de conscience en Grande-Bretagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on leur faisait des petites coupures standardisées après les avoir privés de vitamine C.
Ah ouais ?
Bon, éthiquement, aujourd'hui, ce serait impensable. Mais ça a permis d'estimer qu'il fallait environ 95 mg par jour pour que les cicatrices soient solides.
95 mg, c'est beaucoup, hein ? Facile à voir.
C'est un peu plus que les apports minimums recommandés aujourd'hui, mais c'est très facile à atteindre. Un demi-poivron rouge cru et hop, vous y êtes largement.
Ah oui, quand même, facile.
Et une autre vitamine qui semble jouer un rôle, la B12.
C'est moins connu, ça.
Effectivement. Mais elle semble nécessaire, elle aussi, pour que la synthèse du collagène tourne à plein régime. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles on observe que les végétariens ont en moyenne des taux de synthèse de collagène un peu plus bas, environ 10% de moins.
Ah bon ? Et pourquoi ce lien avec le végétarisme ?
Parce que la vitamine B12, on la trouve presque uniquement dans les produits animaux. Donc, les régimes végétaliens, s'ils ne sont pas bien supplémentés en B12, peuvent entraîner des carences. Et ça, ça a plein d'impacts sur la santé et potentiellement aussi sur la fabrication du collagène. D'accord. Donc, message important pour ceux qui mangent végétal, la B12, c'est vraiment critique pour tout. Et peut-être aussi pour le collagène. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement ? L'idée principale, je crois, c'est vraiment la synergie. Il n'y a pas un aliment magique, une vitamine miracle. C'est l'ensemble qui compte. Une alimentation équilibrée, riche en plein de bonnes choses. La vitamine C et la B12, c'est comme des outils indispensables sur la chaîne de montage du collagène. Sans elles, ça coince. Donc, pour résumer, d'un côté, on se méfie sérieusement des suppléments de collagène. Origine bizarre, risque potentiel, preuve d'efficacité limitée, surtout pour les boosters vegan, c'est ça. Vigilance maximale avant de sortir la tarte bleue.
Et de l'autre côté, notre assiette, elle, a l'air pleine de promesses. On a vu la pâte de tomate qui protège, la patate douce, les épinards, le kale qui pourrait stimuler la production, le soja, potentiellement intéressant après la ménopause, même s'il faut confirmer.
Oui, toutes ces pistes alimentaires sont non seulement intéressantes pour la peau, mais elles s'intègrent parfaitement dans une alimentation globalement saine. C'est du bonus partout. Et sans oublier les travailleurs essentiels, vitamine C, vitamine B12, indispensables. Le message final, ça serait donc manger varié, coloré, plein de végétaux. C'est sans doute la stratégie la plus sûre et la plus efficace pour chouchouter sa peau de l'intérieur.
Absolument. Et ça ouvre une question intéressante pour aller un peu plus loin. Si ces aliments aident le collagène de la peau, qu'en est-il des autres tissus qui en dépendent aussi beaucoup ?
Comme quoi, par exemple ? Nos cartilages, dans les articulations, nos tendons, nos ligaments, tout ça, c'est plein de collagène aussi. Est-ce que bien manger pourrait aussi aider à maintenir la solidité de toute notre charpente interne ? C'est une piste de réflexion, je trouve.
Excellente réflexion pour finir. Comment notre alimentation soutient l'ensemble de notre structure ? Voilà de quoi méditer, ou juste une bonne raison de plus pour mettre des patates douces, des épinards et des poivrons au menu. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.